Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Seigneur, merci pour ce temps où nous pouvons avoir ce privilège d'être rassemblés en Église pour te louer, t'adorer, car tu le mérites. Des fois, la vie, notre monde, la pression sociale nous fait douter de ta présence, et c'est vrai. Même nous qui sommes des croyants matures, des fois, nos pensées s'égarent. Et nous pouvons dire, où est le Seigneur? Et pourtant, tu es là. Tu es digne de louange. La Bible dit que tu sièges dans la louange. La Bible dit que même quand tout s'écroule, tu es là. Parce que c'est toi, en fait, qui fait que tout ne s'écroule pas. Tant que tu ne l'as pas décidé. Tu es le Dieu qui préside à tout. Parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Alléluia à ton grand nom. Et merci pour cette énième journée de nos vies, pour ce que notre monde a mis comme curseur à la fin d'une année calendaire, qui nous permet aussi, c'est vrai, d'avoir des rythmes de vie. Car toi, tu es le Dieu des rythmes aussi. Tu parles de tes providences. Tu fais les choses étape par étape. Et tu dis qu'au temps favorable, tu as fait venir ton Fils dans le monde. Christ est venu dans le monde au temps favorable. Béni sois-tu pour ce temps qui est un temps de fin d'année et un temps de recommencement. Alors aide-nous ce matin à être encouragés au travers de cette méditation que je vais faire de ta parole, que tu puisses, Seigneur, m'aider à partager ce que tu as mis sur mon cœur pour mes bien-aimés, quelques explications de ta parole, et que eux aussi puissent, chacun pour sa part, par l'action de ton Saint-Esprit, saisir ce qui est pour eux ce matin. Nous te bénissons et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Je ferai ce matin, non pas comme j'ai l'habitude de faire une prédication sur un texte biblique précis, mais je parlerai de plusieurs choses. Vu que nous sommes aussi en fin d'année, je vais me permettre pour cette dernière prédication de 2023 d'évoquer quelques sujets, même s'il est vrai que le texte sur lequel je m'appuyais est dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 13, mais on y reviendra tout à l'heure. Sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Lors d'un de mes voyages missionnaires en avril dernier, en avion, de Bruxelles à Abidjan, je regardais sur ce tarmac comment les gens s'organisaient dans cet aéroport. Je me suis dit, waouh, il y a une telle organisation. Tout est paramétré, tout est millimétré. Un avion qui décolle, un autre qui atterrit. Et chacun a sa tâche pour que l'avion décolle plus ou moins à l'heure, que les bagages soient dans l'avion pour lequel les bagages sont destinés, et que l'autre atterrisse. Et ça m'a rappelé un documentaire que j'ai regardé sur ceux qu'on appelle les aiguilleurs du ciel. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui sont là pour faire atterrir, décoller les avions au millimètre près. C'est incroyable. Ils sont dans cette tour de contrôle et ils dirigent tout cela. Je me suis dit, l'être humain est un être merveilleux. L'être humain est un être qui émerveille dans sa capacité à innover, à créer. Il a été capable, alors qu'il y a de cela quelques siècles, il marchait. Il a été capable de créer des outils pour se déplacer en automobile, sur les mers et même dans les airs. L'être humain est merveilleux. Et la Bible dit que c'est normal. Parce que Dieu dit, créons l'être humain à notre image. Lui, il est le Dieu créateur. Il semble que le mot créer est un mot qu'on ne doit pas toujours employer pour l'être humain. Parce que créer veut dire qu'on crée à partir de rien. Or, l'être humain, il crée toujours à partir de quelque chose. À partir d'une idée qui est à lui, à partir de quelque chose. Donc, on dit plus qu'il innove, qu'il invente. Mais quand même, c'est merveilleux. Ce micro que je tiens là, il a fallu que quelqu'un réfléchisse pour dire Comment on va amplifier la voix de quelqu'un pour ne pas qu'il ait à s'égosiller et que tout le monde l'entende dans la salle? Incroyable. Il a créé ce micro. Et voilà qu'on l'utilise depuis. Malgré le fait que le péché a atteint l'être humain depuis Adam et Ève, Dieu a préservé la capacité de bonté dans l'être humain, qu'il soit chrétien ou pas. Qu'il soit chrétien ou pas. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses grâces. Donc ce qu'il a fait dès le début, quand il a créé l'être humain, malgré le péché, il a conservé cela en l'être humain. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit que Dieu est bon, même s'il est méchant, parce qu'il a déjà fait son don de bonté à l'être humain. C'est pour ça qu'il y a cette interpellation à l'être humain. Rappelle-toi ton Créateur. Tu n'es pas sorti de nulle part. Ce n'est pas possible. Et il semble que même les grands scientifiques ne sont pas convaincus qu'on vient de nulle part. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps à la recherche de nos origines. Parce qu'ils disent que ce n'est pas possible, on n'est pas le fruit d'un hasard. Ça ne peut pas être ça. Mais la solution que les chrétiens donnent est trop simple. Il y a un Dieu qui a tout créé. Non, c'est trop simple aussi. Donc on veut savoir. Parce qu'on sait qu'on vient de quelque part, qu'on a été créé par. Ah. Alors, si l'être humain non chrétien est capable d'innover, de faire de belles choses, malheureusement, là où il échoue, c'est dans la relation au prochain. Le 31 décembre 2023, je ne sais pas. 31 décembre 2021, vous saviez où on était? On était encore dans le Covid. Hein? 31 décembre 2020, on était tous morts. C'est vrai, nos vies étaient arrêtées. Pendant une année, nos vies n'ont jamais été la même. On se demandait si on allait pouvoir en sortir. Les journaux télévisés étaient des statistiques de mort chaque jour. Wow, chaque jour. On était abonnés à nous donner les nouvelles de la mortalité journalière dans le monde entier. Et les plus fragiles d'entre nous se demandaient quand serait mon tour. Parce que nul d'entre nous n'était à l'abri de quoi que ce soit. Encore que l'ennemi était tellement invisible, au point où notre président a dit que nous sommes en guerre. C'est ses mots à lui. Il dit nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. La vie a été arrêtée, tout simplement. Du haut de mon septième étage, je regardais bon oeil, il n'y avait pas d'âme dans la rue. On était comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. On allait en rang chercher nos aliments. Encore, on les payait, mais on faisait la queue pour ça. Et c'était rationné en plus. Et il y avait des aliments qui n'étaient pas là. La farine, par exemple. On a oublié cette période-là. On a oublié. On est des êtres humains, nous sommes oublieux. En fait, notre plus grand défaut, c'est qu'on oublie vite nos malheurs. Comme si on a besoin de gommer très vite nos malheurs. Mais nos malheurs sont là pour nous rappeler notre fragilité. Nos malheurs sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas aussi puissants qu'ils ne le sont. Nos malheurs sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas tout puissants. Si nous étions tout puissants, ce virus n'aurait pas pu nous arrêter. Même les nations les plus puissantes avec les laboratoires les plus experts n'ont pas pu. Je crois que des fois, c'est un clin d'œil de Dieu. Pas que Dieu est dans le malheur, mais Dieu, au travers l'échec et la finitude de notre capacité à innover, nous montre qu'on a besoin de dépendre de lui. Alléluia. Et nous devons nous rappeler. Ça fait à peine 2 ans. Dieu nous en a délivrés. Alléluia. Amen. Dieu nous en a délivrés. Que le monde le sache ou pas, mais j'ai entendu beaucoup de non-chrétiens dire, quand même, ah, avec leurs mots à eux, bien sûr. Il y en a qui ont dit, merci, mère nature. J'ai dit, mère nature, d'accord, mais mère nature, elle ne s'est pas faite tout seule, mère nature. Alors, ma réflexion ce matin, c'est Qu'est-ce que le chrétien, qu'est-ce que la chrétienne peut faire comme différence? Au point de vue innovation, c'est vrai, il y a des chrétiens aussi qui ont innové, mais il y a beaucoup plus de non-chrétiens que de chrétiens qui innovent. On est plus au bénéfice du labeur de beaucoup de non-chrétiens et qui nous font du bien, heureusement. Que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les progrès sociaux. Donc, sur le plan de vue innovation, peut-être quelques chrétiens vont faire partie de ce lot de gens qui innovent. Mais et nous autres là? Quel est le domaine dans lequel nous avons une expertise? Il me semble que c'est là notre question ce matin. À la fin de cette année, là où il n'y a personne pour innover, c'est nous qui devons être là. Et nous sommes sauvés pour servir les bien-aimés. C'est ça notre rôle à nous. Nous sommes là pour être des servantes et des serviteurs du Dieu très haut. Amen. Nous sommes là pour être ses serviteurs. Parce que là où le cœur de l'homme échoue, c'est là que Dieu prend la relève. Or, dernier constat, nous sommes 31 décembre et il n'y a pas un continent dans le monde entier qui n'est pas en guerre. Avant, on disait encore que le continent occidental était, européen, était préservé des guerres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La guerre continue en Ukraine et même avant-hier, c'est horrible. J'arrive même pas à imaginer. Il y a des dizaines de bombes qui ont été lancées sur l'Ukraine. Si tu t'assois et tu te dis, comment des hommes peuvent faire ça? En sachant bien qu'une bombe, ça ne cible pas les personnes. Ça peut tomber sur un enfant, sur une femme, sur un vieillard, sur un soldat, mais sur un civil aussi. Mais on s'en fout en fait. On la lance la bombe. Peu importe où elle tombe finalement. Parce que l'autre, il a bien cherché. C'est ça que ça veut dire. C'est consternant. Et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu? Et c'est là que l'Église a son expertise. Permettre à Dieu de changer les cœurs des gens. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes, nous soyons convaincus que c'est possible et que nous-mêmes, nous laissions à Dieu la force de nous changer. Quelques serviteurs de Dieu, notamment Josué. Josué chapitre 24, versets 14 à 16 et 22, 24. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le texte il est long, mais j'ai fait des coupures. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans son rôle de père, Josué avait engagé sa famille à servir comme lui, l'Éternel, et non les faux dieux. Son appel à être en cela imité des Israélites fut couronné de succès, puisque ceux-ci s'engageaient aussi à servir l'Éternel. Amen. Malgré tout ce que Josué a pu vivre, quand on commence au chapitre 1 de Josué, le Seigneur lui dit, ne t'éloigne pas de cette parole, ni à droite, ni à gauche. Médite-la nuit et jour, et tu obtiendras du succès. Et on arrive au chapitre 24, il est resté fidèle à Dieu. À la fin de sa vie, il est resté fidèle et il a, toute sa vie, il a servi l'Éternel. Et pendant qu'il était au service de l'Éternel, il était au service du peuple de Dieu. Dieu lui a donné de prendre soin de son peuple et Josué l'a fait. Depuis le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre 24. Au soir de sa vie, il était rassasié de ses services. Et même là encore, il dit, moi, j'ai fait ma part. La bénédiction va venir. Moi, je ne vais pas la voir forcément. Mais quand cette bénédiction sera là, n'oubliez pas qui vous l'a donnée. C'est l'Éternel. Moi, j'engage ma famille à rester fidèle à Dieu. Pour vous, je ne sais pas. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que Dieu nous aide. Que nous puissions renouveler notre engagement avec Dieu. Moi, un tel, je servirai l'Éternel. Amen. Nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu. Ce n'est pas un titre, non. Ce n'est pas une vocation spéciale de missionnaire, de pasteur, d'évangéliste, non. Quand on est chrétien, quand on est chrétienne, on est serviteur et servant de l'Éternel. Amen. Deuxième exemple, toujours dans l'Ancien Testament, David. David a dit une phrase qui reste célèbre. Je ne referai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Il dit, l'Éternel a tellement fait pour moi que servir mon Dieu, c'est avec non seulement tout mon être, et vous savez que David, il a payé ce service, durement des fois. Il en a bien bavé quand il a aussi fait des bêtises. Mais il est toujours revenu à Dieu. Et Dieu l'a toujours relevé. Et dit ce Dieu-là, non, je ne peux pas lui offrir ce qui ne me coûte pas. C'est pour ça que toute ma vie sera à Dieu. Mais quand il y aura des besoins pour la maison de l'Éternel, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Quand Dieu même lui a dit, ce n'est pas à toi de bâtir le temple, il dit, ce n'est pas grave, je vais préparer le matériel. Il a préparé le matériel. Il a mis ce matériel de côté. Il a fait des alliances. Et quand Salomon était prêt de bâtir, on lui a dit, mais ton père, il avait déjà fait des alliances. Que Dieu nous aide. Il est dit dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, l'homme selon le cœur de Dieu. Non que ce titre doive servir aux yeux de l'Écriture à atténuer ou à excuser ses fautes. Non. Elles sont au contraire signalées, stigmatisées dans le récit biblique avec une franchise et une rigueur qui ne laissent rien à désirer. Mais il a donné gloire à l'Éternel par sa repentance et son humiliation profonde, par l'acceptation humble des châtiments que Dieu lui infligeait, par son recours à la grâce et au relèvement qui l'ont suivi, et par la docilité avec laquelle il a consenti à renoncer à ses pensées les plus chères pour se faire l'instrument de celle de Dieu. Amen. Le roi David était avant tout un serviteur de Dieu. Il avait compris cela. Il avait compris qu'il n'était pas là pour dominer, mais pour être serviteur de Dieu. C'est pour cela que quand son fils est monté sur le trône et que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la sagesse pour pouvoir bien diriger le peuple que tu m'as confié. Car je suis un serviteur. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Tu es servant, tu es serviteur de Dieu. D'abord au cœur de ta famille. C'est là qu'on sert Dieu. On sert Dieu en aimant ce que Dieu nous a confié, en prenant soin. On sert Dieu en s'impliquant dans la vie d'une communauté chrétienne. Parce que l'épître aux Éphésiens dit que c'est par l'Église que Dieu a décidé, dans les temps qui sont les nôtres, de se manifester. Donc ça veut dire que Dieu a établi les églises locales pour que les chrétiens, les chrétiennes s'y engagent pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir un pasteur. Si je suis le pasteur de Créteil et que je suis tout seul, cette église ne va pas exister. Ce n'est pas possible. Cette église, elle ne fonctionne pas qu'avec un pasteur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Cette église, elle tient, elle fait son service parce que il y a vous tous qui êtes à l'œuvre ici. Parce qu'il y a ceux qui ont été à l'œuvre avant nous, qui nous ont passé le relais. Et nous sommes là aujourd'hui. Et c'est notre tour de faire le travail pour que Dieu continue d'avoir un témoignage dans cette vie. Souvent, quand des frères de petites communautés comme les nôtres, j'aime pas le mot petit parce que petit ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire petit? J'en sais rien. Mais souvent quand des frères vont visiter des plus grandes communautés à taille, on va dire, où il y a des centaines, où il y a des milliers de places avec un bâtiment vraiment que Dieu a béni, les frères sont émerveillés. Waouh, Dieu a béni. Mais je dis toujours, vous savez, si Dieu a béni, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui ont donné. C'est pas que le pasteur que vous voyez là qui l'a fait. C'est parce qu'il y a eu 10 000, il y a eu 1000 chrétiens, il y a eu 100 chrétiens, il y a eu 200 chrétiens qui sont engagés avec lui. Donc nous là, engageons-nous ici. À Créteil, il n'y a que ça à faire. Alléluia. Nous les quarantaines, les cinquantaines, engageons-nous pour faire ce que Dieu nous a donné de faire ici, en nous investissant pour la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Le serviteur par excellence, c'est Jésus. Jésus a été ce serviteur qui a réalisé en tout point cette prophétie. Je suis au milieu de vous comme celui qui sait. C'est ce qu'il a dit. Je suis au milieu de vous comme celui qui sait. C'est pour ça qu'il a demandé à ses disciples que celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra la place d'un serviteur. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Le serviteur, le doulos. Celui, et c'est pour ça qu'il a fait cet exemple magistral en essuyant, en lavant les pieds. C'était un maître, un rabbin ne faisait pas ça. C'est pas possible dans la culture de l'époque. C'est les serviteurs qui lavent les pieds de ceux de la maison. En plus forte raison, un maître ne lave pas les pieds de ses disciples. C'est ses disciples qui lavent ses pieds. C'est pour ça que Pierre a été choqué. Quand Jésus s'est mis en position de laver les pieds des 12, Pierre dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est à nous de te laver les pieds. Il dit, non. Je vous montre l'exemple. Et c'est là qu'il a donné cette parole. Celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra la place d'un serviteur. Et s'il veut être la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave des autres, le doulos, le serviteur des autres. Il dit que dans notre monde, celui qui a l'autorité, il domine sur les autres. Il dit, c'est dommage. Dans le royaume des cieux, il n'en est pas ainsi. Dans le royaume, celui qui a la tête, c'est lui qui sert. Et la Bible dit que Jésus est le roi serviteur. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs et des servantes. Cette parole a été une parole révolutionnaire. Elle a été si importante pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Elle a motivé par l'exemple de Jésus qui s'est abaissé au rang de serviteur pour que nous ayons en nous-mêmes le sentiment qui est en lui. Il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces, c'est-à-dire que nous devenions à notre tour serviteurs de Dieu et de notre prochain. Bien-aimés, selon l'Épître aux Philippiens, nous sommes invités à servir notre Dieu, à être des femmes et des hommes qui aiment les gens au point d'aimer les servir. D'aimer les servir. C'est vrai que des fois, dans notre culture française, même quand tu veux servir, des fois, on n'a plus tellement l'habitude d'être individualiste que même on est étonné quand quelqu'un veut nous aider. Ouais, souvent, tu veux aider quelqu'un, elle a une réaction de repulsion parce qu'on n'a plus l'habitude de ça. Au sorti d'un grand hypermarché, j'ai vu une dame d'un certain âge avec un carton déjà bien entamé, en train de se dépatouiller avec ce carton. J'ai beau dire à cette mamie que je voulais l'aider, elle a dit non. Elle a dit ça va aller. Mais je voyais bien que ça n'allait pas. Avec le carton. Mais elle s'est débrouillée pour ne pas que je l'aide. Parce qu'on a pris l'habitude de ne pas se faire aider. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Même quand tu es dans un métro et que tu veux céder la place à un senior, maintenant j'hésite même à céder la place parce que j'ai eu des réflexions de certains seniors qui m'ont... Oh, je dis, ok. Je dis, mais non. C'était pour vous, madame. C'était pour vous. Mais est-ce pour autant qu'on doit baisser les bras? Non. Nous devons être des serviteurs. C'est ça la différence du chrétien. Il ne baisse pas les bras. La Bible dit, tant que cela dépend de vous, faites le bien, mais jamais le mal. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Faites les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance que vous pratiquiez. C'est pour ça. C'est là notre différence. Nous ne serons pas tous des grands inventeurs de quelque chose, mais nous serons tous des serviteurs et des servantes de Dieu à la gloire de Dieu, qui apporte un espoir, qui apporte un baume, qui apporte un peu de bien à notre prochain et surtout le salut en Jésus-Christ. Jésus l'a fait et nous a montré le chemin. On dit qu'il marche avec des gens de mauvaise vie. Lui, il avait le temps pour tout le monde, c'est Jésus-là finalement. Il avait le temps pour tout le monde. Il avait le temps pour tout le monde. Si tu es un quelqu'un d'important que tu veux l'inviter chez toi, il vient. Mais si tu es un anonyme aussi, il s'invite chez toi. Et on dit, mais il va partout. Il dit oui, Pourquoi je fais ça? Il dit parce que les malades, ils ont besoin de médecins. Et lui, il est le médecin des âmes. Il va partout où les âmes malades ont besoin d'un médecin. Alléluia. Et Dieu seul sait combien nos âmes sont malades. Nous tous qui étions là, nos âmes étaient malades jusqu'à ce que Christ vienne nous guérir. À la croix, la Bible dit, il a fait quoi? Il a porté nos maladies et nos meurtrissures. Car c'est par sa croix, sa mort à la croix, que nous avons été guéris. Nos âmes ont été guéries. Et nous voulons que d'autres âmes soient guéries aussi. C'est pour ça que nous sommes serviteurs et servants de Dieu. C'est pour ça qu'avant nous, des chrétiens n'ont pas cessé de faire vivre l'Église pour que l'Église continue de prêcher, d'annoncer, de vivre l'amour. Et grâce à cela, plusieurs d'entre nous, nous avons trouvé la foi. Plusieurs d'entre nous avons trouvé la foi. Parce que soit une église, soit un chrétien, soit un événement nous a attirés à Dieu. Je bénis Dieu pour la première église là où j'ai mis les pieds. C'est vrai, j'ai été évangélisé par un étudiant sur un campus universitaire. Mais la semaine qui a suivi, il m'a invité dans une église. S'il n'y avait pas eu d'église, je ne serais pas là. Vous savez, les églises locales sont importantes, les bien-aimés. Moi, je ne suis pas d'accord que certains disent qu'on n'a pas besoin de l'église locale. C'est pas vrai. On en a encore besoin parce que c'est là qu'on peut diriger des personnes. Mais pour qu'on les dirige, il faut que l'église soit une église vivante. J'ai rencontré un jeune frère il n'y a même pas longtemps. Il m'a dit, tu sais, je ne suis plus dans cette église-là. Je n'ai pas demandé pourquoi. Mais beaucoup de chrétiens sont blessés dans des églises. Ils ne vont plus. Ils vont dans une autre. Ils sont encore blessés, ils vont dans une troisième, dans une quatrième, plus dans une cinquième, plus dans une dixième. Et finalement, ils ne vont plus nulle part. Que Dieu nous aide. Que nous ne soyons pas des églises qui blessent les gens au nom de Jésus. Que nous soyons une église où les gens, quand ils viennent, que Dieu nous aide. Hébreux chapitre 13. Que l'affection fraternelle demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Il en est qui, en les laissant, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exemple de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'adultère. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur que peut me faire un être humain. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Verset 12, je saute. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son humiliation, car nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir.
Vas-y encore.
Merci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Et n'oubliez pas de pratiquer la bienfaisance et la libéralité, c'est-à-dire la solidarité et l'entraide, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Voilà ce qu'on attend d'une église, voilà ce qu'on attend de nous chrétiens, que Dieu nous aide. Nous avons besoin de vivre cela. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais c'est là que Dieu nous attend et que Dieu nous a déjà enrichis. C'est là que nous sommes des créateurs. C'est là que nous sommes des innovateurs. C'est là que nous sommes des inventeurs. C'est là notre plus-value dans le monde. Nous, les chrétiens, notre plus-value, c'est de vivre ça. Parce qu'en plus, la Bible dit que Dieu nous a donné son Esprit Saint pour que nous puissions le vivre. Car le fruit de l'Esprit... J'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la solidarité, l'amour, la patience, la persévérance, la bonté. Vous connaissez ces fruits-là. Il dit, si vous êtes nés par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Que Dieu nous aide. Prions que, demandons au Saint-Esprit, demandons l'Esprit de Dieu dans nos couples, et on en a tellement besoin dans nos couples. On en a tellement besoin dans nos couples. On en a tellement besoin dans nos couples. Demandons à Dieu que nous voulons faire la différence, les frères. La société se délite par strap. Quand un bâtiment est en train de se détériorer, c'est pas les straps. Hein? C'est pas tout le temps comme ça, mais des fois, on voit qu'il y a l'écorche, c'est-à-dire que les couches extérieures du ciment commencent à être un peu fissurées. Et ensuite, ça tombe tout doucement. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et quand ça finit de tomber, oh, en fait, on voit la grosse fissure qui est en bas. Parce que tant qu'il y a l'enduit, on ne voyait pas la fissure. C'est caché. Et l'ennemi, il sait trop bien ça. Donc, il détruit par strap. Et ce qu'il est en train de détruire actuellement, c'est les couples chrétiens. C'est sa cible. Et c'est pas... Il ne choisit pas ni les plus jeunes, ni les plus anciens. Toute catégorie. Toute catégorie. Toute catégorie. Que Dieu nous aide. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Ne pensez pas que c'est un combat personnel à vous. Ne pensez pas que c'est un... C'est là qu'il faut que vous activiez le fait que la Bible dit que souvent, nous, on pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Parce que eux, ils ont pris un défi sur votre couple. Ils veulent le détruire. La Bible dit qu'il est descendu pour égorger et tuer. Il n'a pas d'autre travail que de détruire les couples chrétiens. Il n'a pas d'autre travail que ça. Et quand un couple chrétien est à terre, il dit, voilà, c'est bien, j'ai réussi. Et comme ça, la société n'a plus d'exemple. Puisque quand on parle, les gens disent, mais même ceux que vous appelez les modèles, même eux, même eux, même eux, même eux, donc. Et je parle avec beaucoup de respect pour ceux qui ont vécu des moments difficiles dans leur couple. Je parle avec beaucoup de respect pour ceux qui ont dû finalement se séparer. Je parle avec beaucoup de respect pour vous parce que je sais. Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Et personne n'a le droit de vous culpabiliser. Jamais. Mais pour ceux qui tiennent encore, tenez bon. Lâchez pas. Tenez bon, lâchez pas. N'oubliez pas, c'est un combat. C'est un combat. Et quand on dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, ça dit que ce n'est pas ton mari qui est ton ennemi. Ce n'est pas ta femme qui est ton ennemi. Non, 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 non. Ce n'est pas vos enfants qui sont vos ennemis. Parce que quand on parle du couple, on parle aussi de famille. Et quand les enfants grandissent, nous les familles chrétiennes, on doit veiller à la relation. Combien d'enfants grandissent? Certains à tort, certains à raison ont dit c'est parce que ma mère était trop dure en tant que chrétienne. Certains ont dit ça. Oh! Le choc que ça peut faire des fois d'entendre ça. Alors que c'était un bien, c'était un cadre. Mais souvent, ce n'est pas juste de dire ça à ces enfants-là quand ils disent ça. C'est parce qu'ils sont fâchés quelque part. Mais au fond, ils savent que la graine que vous avez semée est une bonne graine. Amen. Amen. Mais nous devons continuer. Ce combat, c'est le bon combat, le combat pour le salut des âmes de nos enfants, pour les rendre dans la bergerie du Seigneur, car la vie ici n'a rien de comparable à la vie de l'éternité. Et ce que nous souhaitons le plus, c'est que bien sûr, ici, ils aient une vie agréable, mais bien plus qu'ils rentrent dans l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Vas-y encore. 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 Et encore. Voilà. Dans ce combat, nous avons besoin de ne pas oublier que nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un de pieux. Le mot pieux veut dire c'est quelqu'un qui a des exercices de piété, que sont la méditation de la parole de Dieu, que sont la prière. Pour la méditation de la parole de Dieu, je ne veux pas vous en dire plus, parce que vous le savez. Parce que vous le savez. Ne vous inquiétez pas du petit qui pleure. C'est normal. Nous sommes une église famille. Quand on est église famille, on doit accepter que nos mamans qui ont des enfants à bas âge puissent venir aussi. Sinon, à cause du bruit, elles ne viennent pas. Et c'est pas juste non plus. Parce qu'elles ont besoin de cette bénédiction de Dieu. Même si c'est vrai que des fois, le bruit de l'enfant peut gêner, mais ça gêne quoi? Ça gêne juste l'enregistrement. Mais l'enregistrement, de toutes les façons, ce n'est pas le plus important. C'est nous qui sommes là, n'est-ce pas? Et nous nous comprenons. Je fais une parenthèse et je vais la fermer vite. J'étais dans un séminaire pour famille pendant un week-end où j'enseignais sur la famille et un jeune couple m'a approché pour me dire « Ce que tu dis là, ça nous touche. » Parce que tu sais, ça fait quelques mois maintenant que nous n'allons pas à l'église. Parce que quand nous sommes dans la salle de culte, notre enfant il pleure et tout le monde nous regarde. Et certains ont eu la réflexion du genre « Tenez un peu vos enfants. » Qui peut tenir un petit enfant? Vous tous qui avez été maman, nous tous qui avons été parents, un petit enfant, on peut le tenir? Et puis ça dépend des enfants. Il y a un, tout se passe bien, il est gentil quand tu es là, et puis un autre, lui, il va pleurer. Et souvent on dit, mais tu n'es pas comme ton frère. Mais bien sûr, il n'est pas son frère. Sinon, il serait son frère. Il n'est pas son frère, ni il n'est pas sa soeur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que église, famille, des fois, c'est le test que je viens de vous dire, l'amour fraternel. On doit accueillir les mamans qui ont des enfants à bas âge. Sinon, elles restent à la maison. Et ce n'est pas édifiant pour elles parce qu'elles ont besoin aussi de vivre le culte. C'est pour ça qu'on vous a encouragé, en tout cas nous, le conseil des chrétiens a dit, laissez nos enfants dans le culte. Des fois, ils sont bruyants, ça dérange. Mais moi, j'ai appris à me passer de leur bruit parce qu'au moins la maman est là et le papa est là. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc la piété, la prière. Et je vais vous passer la prière de quelqu'un qui s'appelle Dumas et qui a fait une prière par rapport à l'église. Il dit, quand je pense à l'église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas. Attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton église, qui est notre église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette église, qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur, trop grande aussi pour notre petitesse. Une église mal aimée et du coup mal aimante. Une église dont la fidélité devient répétitive et l'infidélité habituelle. Une église qui se paie de mots et qui contribue à enténébrer la vie de bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. Alors, mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de la lorgner ses déficiences par le trou de sa serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrants. Car ainsi seulement, je m'arrêterai de regarder ton église, qui est notre église, pour y vivre avec les autres. Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour, comme sans cesse le berger rattrape les brebis qui boitent et qui s'attardent. Comme sans cesse le raccommodeur rattrape les mailles qui filent et qui déchirent. Ton fils est la tête d'un corps aux membres disjoints. Il est le premier-né d'une famille d'enfants séparés. Il est la pierre angulaire d'une maison inachevée. Mais c'est bien à l'Église que tu tiens, et non pas seulement aux individus qui se préfèrent chacun eux-mêmes. Car c'est bien à l'humanité entière que tu tiens, et non pas seulement aux membres d'un club. Ton Église est ainsi le signe visible de ton dessein total. J'hésite à l'appeler ma mère, qu'elle ne m'a pas engendré. Mais je l'ai rencontré. J'hésite à l'appeler ma sœur, car nous ne sommes pas liés par l'obscurité du sang, mais par la liberté de l'esprit. Mais je veux bien l'appeler ma famille, car je lui suis attaché pour le pire et pour le meilleur. C'est ma nouvelle famille dont tu es l'initiateur, ton fils le libérateur et ton esprit le rassembleur. Amen. Waouh. En résumé, il dit, tant que je fais rien, je vois tous les défauts de l'église. Mais à force de faire ça, je ne suis pas étude, je ne suis pas un serviteur de Dieu, je ne suis pas un servant de Dieu. Je veux quitter le banc des spectateurs, des moqueurs, pour être un acteur, quelqu'un qui célèbre Dieu et qui s'investit dans l'église. Parce que cette église-là, c'est ton église. Elle n'est peut-être pas toujours parfaite, mais c'est ton église. Et c'est toi qui la rends parfaite, selon l'Épître aux Éphésiens. On dit que Christ fait quoi? Il rend l'église jour après jour parfaite, sans ride, sans tâche, pour qu'il la présente au jour voulu à Dieu comme une belle fiancée. Alléluia. Que Dieu nous aide à aimer son église. Et je finis cette invitation ce matin par des mots de bénédiction. Bénir, bénir, accorder la faveur divine et octroyer la grâce. Ah, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je prie que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs de notre communauté qui pendant ces 360 et quelques jours ont été fidèles à leur Dieu et qui ont permis à cette église de rester une église vivante, qui a permis d'accueillir, d'accompagner de nouveaux chrétiens, qui a permis d'accompagner certains au baptême, qui a permis de visiter ceux qui étaient en souffrance, qui a permis de rester à la brèche tous les mardis de l'année sans interruption. Depuis le premier mardi de 2023 jusqu'au dernier mardi cette semaine, nous avons été toujours là dans cette église. Elle n'a jamais fermé ses portes les mardis. Alléluia. Il y a toujours eu 3, 4 ou 5 ici pour prier, pour les bien-aimés, pour prier pour les sujets du monde entier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'il y en avait ici, il y en a qui étaient toujours sur Zoom aussi. Les fidèles sont restés connectés chaque mardi, chaque mardi. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont restés connectés pour prier avec nous tous les mardis. Tout l'Ancien Testament est traversé par des paroles de bénédiction. À commencer par celui dont je vous ai parlé depuis plusieurs mois, Abraham. Genèse chapitre 12, vous vous souvenez chapitre 12? Où Dieu dit clairement à Abraham, je te bénirai et je te rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et l'Ancien Testament est traversé par la délégation, Dieu a fait délégation à Aaron et aux Lévites de bénir le peuple d'Israël. Et donc, régulièrement dans les célébrations, Aaron, qui célébrait, au nom de Dieu, bénissait le peuple. Et ça avait une efficacité. C'est pour cela que nous avons gardé, nous, dans notre communauté de Créteil, la bénédiction finale. Où c'est régulièrement l'ancien, un des anciens qui fait cette bénédiction. Émile qui fait cette bénédiction. Elle a une portée spirituelle sur l'église. C'est une bénédiction. La bénédiction, c'est fort du mandat que Dieu nous a donné. Nous sommes encouragés par Dieu à bénir son peuple. Et donc, que Dieu vous bénisse. Je formule ces deux bénédictions. Celle de 1 Corinthiens 13, 14. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint nous unissent. Que cet Esprit soit avec vous. Et je veux reprendre pour moi et pour chacun d'entre vous la bénédiction que l'apôtre Jean adresse à l'ancien Gaïus. L'ancien à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mes frères et mes sœurs, je prie que vous prospériez à tous égards avec la petite condition quand même. C'est que d'abord votre âme prospère. La prospérité matérielle n'est pas la première. La première prospérité, c'est votre âme. Que vous continuez d'être rempli de Dieu, de servir Dieu, de vivre Dieu, d'être transformé par l'amour de Dieu, de servir votre Dieu, et que par-dessus tout, il vous accorde ce dont vous avez besoin. Amen. Que Dieu vous mette au large. Que Dieu vous fasse passer de difficultés familiales à la réconciliation familiale. Amen. Que Dieu vous fasse passer des difficultés émotionnelles, sentimentales, à la bénédiction émotionnelle, à la bénédiction sentimentale. Je prie pour ça de façon spéciale parce que vous savez, il y a deux jours, j'étais en train de méditer dans mon petit bureau à la maison et mon téléphone il sonne. Et je décroche et une voix d'une personne âgée me demande, est-ce que c'est l'église MLK? J'ai dit non. Elle dit, mais c'est qui? J'ai dit, c'est l'église évangélique protestante de Créteil. Mais le numéro d'MLK, vous pouvez le trouver sur le site. Elle dit, non, c'est très bien. Est-ce que vous avez du temps? J'ai dit, oui, madame, allez-y. C'est une mamie de 74 ans qui avait besoin qu'un pasteur prie pour elle parce qu'elle vivait une situation d'oppression et d'angoisse. C'est pour ça que je prie que Dieu vous fasse passer des situations émotionnelles et sentimentales difficiles qui vous mettent au large. Elle est chrétienne, cette mamie. Elle dit, vous savez, je suis de tradition luthérienne. Je lui ai dit, prie avec le psaume 120, 121. Elle dit, les psaumes, je les connais par cœur, je les ai appris. Je dis, c'est très bien, c'est pour ces moments-là que vous les avez appris. Récitez-les. Faites de cela une victoire pour vous. Et bien aimé, que Dieu vous passez dans cette bénédiction où vous êtes en paix, quelles que soient les épreuves. La Bible dit que la paix que Jésus donne est une paix qui ne dépend ni des temps, ni des circonstances, mais qui garde votre cœur serein, même au cœur de l'orage. Parce qu'avec la certitude que celui qui ne sommeille ni ne dort, le psaume 121, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui ne sommeille ni ne dort, Il veille sur toi. Je prie finalement que Dieu vous fasse passer des difficultés financières qui vous mettent au large aussi. Nous en avons bien besoin dans une conjoncture qui est terrible. Nous en avons bien besoin dans une fragilité où finalement nous ne sommes pas aussi à l'abri de certains patrons malveillants, de certains systèmes injustes. Je prie que Dieu vous préserve, que Dieu vous mette à l'abri et que Dieu vous donne la victoire. Amen. Nous avons besoin d'être convaincus. Le Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu qui bénit. Amen. C'est pas le Dieu qui maudit. Hein. C'est le Dieu qui bénit. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Je bénirai l'Éternel. On va chanter « Je bénirai l'Éternel » pour répondre à cette méditation.
Vous pouvez vous lever.